Bonjour à tous et bonne matinée, bienvenue dans les rendez-vous du Mantois. Chaque semaine, nous accueillons un élu du territoire et aujourd'hui, nous recevons Cécile Dumoulin, vice-présidente du conseil départemental des Yvelines, déléguée au collège et conseillère départementale du canton de Limay. Madame Dumoulin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous aborderons l'actualité concernant les collèges. Nous parlerons également de la restauration collective. Et puis nous reviendrons sur votre candidature au municipal de Limay. On commence par l'actualité sur les collèges. Le département a voté le 18 octobre dernier le budget de fonctionnement pour les collèges publics et les établissements internationaux, un budget de 7 millions d'euros pour 2020. Alors à quels aménagements et améliorations va-t-il servir ?
Alors, c'est une petite partie du budget qui est consacré au collège parce qu'elle correspond à la DGF, donc la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire c'est un budget que nous allouons aux établissements pour qu'ils puissent payer leurs fournitures, des activités pédagogiques, donc l'entretien aussi du matériel. La partie la plus importante étant évidemment l'investissement. Hein. On a un budget de 120 millions d'investissement, donc 100 millions sur des grosses opérations. Donc quand je dis grosses opérations, c'est restructuration ou construction de collège, comme celui de Mende par exemple. Et on a notre budget de fonctionnement est un peu plus de 40 millions d'euros. Et donc ça comprend aussi la restauration collective et puis un budget qu'on alloue pour les activités éducatives, le soutien aux activités éducatives des collèges.
Alors actuellement, une expérience qui est menée avec des chargés de prévention qui interviennent dans les collèges pour orienter, pour accompagner les élèves. Détaillez-nous en quoi consiste ce programme et pourquoi le mettre en place.
Oui, ça a été voté la semaine dernière au sein du département dans le cadre d'un dispositif global de prise en charge de la prévention de la jeunesse. C'est un dispositif qui a été mis à titre expérimental depuis 2 ans dans 8 collèges. Il s'agit de personnes qui ont soit un profil éducateur pour la plupart, qui interviennent au sein des établissements pour avoir des missions de médiation, d'orientation, de lien avec les familles, de gestion des conflits. Et ça se fait en lien avec le CPE, les services de direction, le médecin scolaire, ou plutôt l'infirmière scolaire ou l'assistante sociale, les familles. Donc l'intérêt, c'est qu'ils puissent agir à la fois au sein du collège et à l'extérieur. On a vu dans certains collèges, notamment je pense à Albert Thireux, qui a eu des problèmes à la sortie des collèges. Donc ça, c'est vraiment important aussi de faire ce lien. Donc ce dispositif, il sera élargi. Donc il y aura 22 chargés de prévention qui interviendront dans 30 collèges. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça montre que le département s'investit énormément justement dans la prise en compte de cette problématique qu'est la jeunesse et de son accompagnement nécessaire à cet âge charnière qu'est l'adolescence. Hein. On sait très bien que c'est l'âge où on peut effectivement être tenté par des expériences ou être moins attiré par l'école. Voilà. Donc c'est vraiment important que le département s'investisse à ce côté. En vous parlant, je me rends compte que j'ai oublié de parler du numérique aussi. Quand on a parlé des investissements, ces dernières années, on avait un budget de 10 millions d'euros hein, pour le numérique parce qu'on a fibré l'ensemble de nos collèges et on dote aussi les collèges en TNI, ordinateur, tablette individuelle, classe mobile. Donc ça aussi un budget extrêmement important.
Pour revenir sur l'expérimentation des chargés de prévention, ils interviennent juste sur l'aspect psychologique de l'élève ou il y a aussi une part de sa scolarité qui est évoquée?
Non, il peut. Alors la scolarité, le pédagogique, c'est quelque chose qui est complètement dévolu à l'éducation nationale. Là, c'est plus mener des ateliers. Par exemple, moi, j'avais été au collège des Mureaux pour un atelier philo qui avait été mis en place. Donc, il peut mettre en place des ateliers. Il peut justement faire du cas par cas avec certains élèves qui ont des problématiques. C'est vraiment un dispositif qui s'adapte à chaque collège parce qu'il y a des fiches actions qui sont établies en lien avec, avec les responsables éducatifs du collège, justement, et c'est une chance pour les collèges qui en bénéficient. Et dans notre secteur, de nombreux collèges en bénéficient. Voilà, donc c'est en priorité pour les collèges REP et REP+, mais certains collèges ont été identifiés et pourront en bénéficier également.
En ce moment est en train d'être construit le nouveau collège de Mantes-la-Jolie au Volfouré. La première pierre a été posée début septembre. Le collège devrait ouvrir en septembre 2021. Qu'attendez-vous de ce collège? On sait qu'il veut porter un projet pédagogique innovant.
Oui, alors déjà c'est un geste architectural très très fort, hein, parce que c'est Ricciotti qui est, qui est l'architecte. Il est au cœur du Volfouré. Il fera suite justement à l'arrêt du collège Cézanne et Chénier. Il se veut vraiment attractif et avoir cette pédagogie différente avec des locaux adaptés. Donc, les locaux sont au service de la pédagogie. Faut que vous compreniez bien que le département a des compétences qui sont la construction et l'entretien des bâtiments, la restauration collective et le numérique. Tout ce qui concerne la pédagogie est du ressort de l'éducation nationale. Nous, notre objet et notre objectif, c'est de vraiment de donner les conditions d'être un peu impulsé à une dynamique pour repenser le collège de demain. Et on a eu le soutien et plus que le soutien, parce que il est vraiment une pierre fondatrice du projet, de Jérôme Salté, qui est le fondateur de Playback, qui a écrit un livre justement sur ce sujet qui repenser un peu la pédagogie. Donc, en termes de bâtiment, il y aura un amphithéâtre qui pourra accueillir, je crois, 200 personnes. Donc, ce qui permettra de libérer du temps professeur pour pouvoir travailler en petits groupes. Les enseignants aussi auront des bureaux individuels où ils iront rester plus souvent dans l'établissement. Il y aura une cafétéria qui sera pour les parents avec un grand hall d'accueil. Donc, c'est un lieu qui se veut chaleureux pour les élèves qui y travaillent. Un lieu où on a plaisir à être, où on se développe, où la personne est prise en compte, où l'erreur est acceptée, voilà, avec vraiment toute cette pédagogie bienveillante qui se fera. Et puis un collège ouvert sur le quartier qui travaillera en lien justement avec les différents partenaires. Et on sait que sur le Mantois, les partenaires sont nombreux.
Est-ce que vous ne craignez pas que ce grand changement bouleverse quelque peu les élèves et les enseignants, ceux qui officient dans les collèges actuels, justement, de Mantes?
Alors, moi, je pense que c'est une vraie chance pour nos élèves d'avoir justement un bâtiment qui sera et des locaux qui sont vraiment adaptés et avec cette nouvelle pédagogie. Le travail pour les enseignants, c'est le reste du ressort de l'éducation nationale. Et donc, c'est un projet qui date déjà de plusieurs années, hein. Il y a des réunions de travail qui se font avec le directeur d'académie. Il peut y avoir un frein au changement, mais l'essentiel étant l'intérêt de l'enfant. Et moi, je fais confiance à la fois aux équipes pédagogiques, aux équipes du département, pour que ce projet soit vraiment une réussite. En tout cas, c'est vraiment notre ambition.
Depuis la rentrée scolaire, le personnel des collèges implantés dans les réseaux d'éducation prioritaire bénéficie de la gratuité des repas à la cantine. Quels sont les objectifs de cette mesure?
Alors, ça s'inscrit dans un cadre plus global de tarification. Nous avons souhaité, dans un premier temps, unifier l'ensemble des prestations de la cantine. Ça passe par l'harmonisation des modes de production et par aussi une tarification qui est la même. Avant, il y avait des sacrés écarts entre les différents collèges. Certains payaient 2,80 € et d'autres 4,50 €. Donc, c'était pas normal que, comme c'est le département qui gère et qui prend en charge l'aide à restauration, qu'il y ait un tel écart. Pour mémoire, vous rappelez que ce que payent les familles n'a rien à voir avec le coût de revient d'un repas qui est de 8 € à peu près. Donc, la première étape était justement cette tarification sociale et familiale entre 1 et 4 € avec des tranches de quotient familial. La restauration collective, on a plusieurs agents. La majorité de nos agents du département ont été transférés à la CEMOP, hein, dans le cadre en grande partie d'une mise à disposition. Et dans la restauration collective, la gratuité des repas est acquise. Donc ce que nous avons fait pour pas défavoriser aussi nos autres salariés du département, qui sont les agents d'accueil et les agents de maintenance, dès le mois de janvier, il y a eu cette volonté d'avoir la gratuité aussi pour l'intégralité des agents du département. Ce qui a été décidé par la suite, c'est de favoriser les collèges REP et REP+, qui exercent un petit peu dans des conditions plus difficiles et sur le même, le même modèle que l'éducation nationale, qui accorde des primes aux enseignants et au personnel qui y travaille. Nous avons souhaité avoir justement cette attractivité supplémentaire. Et la gratuité, elle est aussi étendue au personnel de catégorie C de l'intégralité des collèges. Ça c'est pas assez souvent souligné. Ainsi qu'aux AED.
AED qui veut dire ?
Les assistants d'éducation, voilà. Et les AVS, assistants de vie scolaire. Et aux CUI, voilà. Donc c'est en fait une volonté du département de mettre des priorités sur et d'accentuer l'accès à la cantine pour des personnes qui ont le plus de difficultés.
On reste dans la restauration. Le 16 octobre dernier, lors de la journée de l'Université des mairies, vous êtes intervenu lors de l'atelier Restauration collective. Alors comment proposer un service public de restauration de qualité et éco-responsable ?
Alors, l'objectif de passer justement en créant une CEMOP, c'est d'avoir la possibilité de mener à bien nos objectifs en termes de développement durable. Ça passe par des tables de tri dans l'intégralité de nos cantines, de la récupération des déchets qui vont vers une usine de biométhanisation, par la valorisation de notre agriculture locale, donc yvelinoise et francilienne, en développant des circuits courts, en favorisant le bio. Donc les objectifs du département dans le contrat étaient 40% de bio en début de contrat, et on arrivait à 50% à l'horizon 2025. Déjà pour cette année, les objectifs ont été dépassés. Sur les circuits courts, 30% de produits issus de circuits courts et locaux, dont 20% de produits bio issus de circuits courts. Là aussi, nos objectifs sont dépassés. Donc ça, c'est cette volonté n'aurait pas pu être possible sans justement une globalisation de l'offre. Voilà. Donc ça, c'est une première chose sur le développement durable. Nous voulons aussi avoir une restauration sur place. Et dans le programme dans le contrat qui a été signé avec Cemidi, avec Sodexo dans le cadre de Cemidi, on va avoir 19 cuisines qui étaient livrées, donc par une cuisine centrale, qui sont transformées en production sur place, à raison de 3 par an. Donc l'année dernière, il y a eu Issou, Gaillon-sur-Montsian et Fontenelle-Fleury. Et l'année prochaine, ce sera autour de Galilée et puis du collège Renoir à Chatou et les Trois Moulins à Bonnel. Voilà, donc ça c'est aussi une volonté d'avoir dans l'assiette plus de qualité. Voilà, donc évidemment après il y a aussi des animations. Il y avait des pratiques différentes dans certains établissements. On essaie d'un petit peu d'uniformiser ça en travaillant sur la semaine du goût et avec différentes thématiques.
Un mot maintenant concernant l'actualité de votre canton. À Épône, un nouveau pôle scolaire et culturel a été inauguré à la rentrée. On y trouve une école élémentaire, un restaurant scolaire et une médiathèque. Votre avis sur ce regroupement des structures et puis sur cette médiathèque futuriste ?
Elle est très jolie, cette médiathèque. J'ai été effectivement présente lors de l'inauguration avec ses grandes baies vitrées, au-delà de la qualité architecturale et environnementale, parce que les bâtiments répondent vraiment à des normes énergétiques draconiennes. C'est un équipement qui se veut vraiment ouvert aux familles, et, à la population, et on s'y sent bien. Et c'est important d'avoir dans une ville, dans une commune, des équipements de qualité pour créer du lien social, parce que c'est ce qui manque le plus souvent, d'avoir des endroits où on peut se retrouver. Donc là, l'école, la médiathèque, il y a aussi une cantine, vous l'avez peut-être dit. C'est un geste fort de la municipalité que dirige Guy Muller.
Cécile Dumoulin, vous avez officialisé votre candidature à la mairie de Limay ce lundi. Vous êtes à la tête d'une liste Limay Demain, qui est née de l'association du même nom que vous avez créée en début d'année. Alors d'abord, pourquoi avoir créé cette association ?
Alors, juste une petite précision, ma liste s'appelle Limay Demain 2020. Voilà. L'association s'appelle effectivement Limay Demain. Nous nous sommes réunis avec plusieurs habitants de Limay. Partons du constat que cette ville avait des atouts à valoriser et qu'il y avait des sujets sur lesquels les Liméens partageaient le même constat, une dégradation de la propreté, une non prise en compte de leurs demandes, des problèmes d'incivilité et puis des aménagements qui manquaient. Voilà, donc nous avons créé cette association Limay Demain. Donc l'objectif étant de créer un espace de rencontre et de dialogue avec les habitants de Limay. Donc pour ce faire, nous sommes allés à la rencontre des habitants depuis plusieurs mois, en faisant du porte-à-porte, en leur demandant ce qu'ils pensaient de la ville de Limay et quels étaient les axes d'amélioration, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient pour leur ville, pour leur quartier. Et donc on a eu plein de remarques qu'on a un petit peu consignées. Et donc nous avons... le 9 octobre, fait une réunion publique avec une restitution de tout ce qu'on avait entendu. Hein. C'était une manifestation qui était réussie. Et là, il a fallu aller plus loin parce qu'au-delà de la simple constatation de ce qui ne va pas ou des propositions, il faut, avec les adhérents de mon association, nous avons décidé de mener une liste et c'est moi, la candidate qui a été retenue. Ma candidature a été validée à l'unanimité des adhérents de l'association. Nous avons décidé de l'appeler Limay Demain 2020. Et donc, ma candidature à cette élection, elle procède à la fois justement de tout le travail fourni par l'association, de ces moments de rencontres et d'échanges qui m'ont nourrie, et puis d'une volonté de faire plus pour la ville de Limay. En tant que conseillère départementale de ce canton depuis 4 ans, j'ai déjà porté plusieurs dossiers. Le département a accompagné certains équipements, le gymnase des Fosses Rouges, la halle sportive, le centre commercial de la Source. Et moi, je pense que ça suffit pas. Il faut une vraie politique plus ambitieuse pour la ville de Limay. Il faut surtout que les problèmes soient résolus. Et moi, j'ai entendu beaucoup de personnes qui me disaient là, les voitures roulent trop vite, j'ai demandé un ralentisseur, j'ai pas eu de demande. J'ai entendu mes enfants n'ont pas de parc pour se promener ou alors ils sont pas sécurisés. Voilà. Donc il y a à la fois une volonté de répondre aux problématiques de la ville de Limay et de lui donner une perspective d'avenir, de la faire entrer un petit peu dans la modernité. Aujourd'hui, quand une ville n'avance pas, elle recule. Voilà. Donc moi j'ai envie vraiment de donner des perspectives à Limay et de le faire avec les habitants de Limay. De repenser la mode de gouvernance qui est archaïque et donc de les associer. Donc c'est l'objectif de ma candidature. C'est l'objectif de l'association Limay Demain dont j'ai démissionné pour pouvoir me consacrer intégralement à cette campagne. Et justement, j'invite les habitants de Limay à venir le 10 décembre à la salle Maurice Quétier pour une réunion publique qui aura comme objet principal comment remettre les habitants au cœur de l'action municipale et comment on peut être acteur dans sa ville. Le slogan, un des slogans de ma campagne, c'est « Prenons notre ville en main », c'était celui de Limay Demain également.
Une autre problématique que vous aviez pointée selon vous, c'était le stationnement.
Ah oui, c'est vrai. Ça, n'importe quel habitant de Limay peut se plaindre de la manque de place de stationnement. Il y a beaucoup d'épaves qui ne sont pas enlevées. On a construit beaucoup sur cette ville sans forcément penser aux équipements publics, aux places de stationnement. Et ça, c'est un sujet sur lequel il faudra réfléchir et se pencher sérieusement.
Merci beaucoup Cécile Dumoulin d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Très bonne journée à tous. Juste après la pub, le retour des tubes et votre journal d'information locale à 8h30.